C'est parti. Salut à vous. Voilà, émission enquête d'un cinéma sur une terrasse au panier avec une très belle vue sur Marseille. On est avec Julie et Jean-Baptiste et Fab pour discuter du film La Buissonnière qui était au FID en compétition 12e film. Voilà, donc on est en présence tous ensemble pendant une heure pour parler de cinéma, de vie et de choses diverses. Voilà.
Où est-ce qu'on est là, Lolo, en fait?
Hein?
Où est-ce qu'on est?
Au panier.
Ouais, on est au panier sur une
terrasse. Sur une terrasse, voilà. Ouais. Terrasse avec des plantes bleues. Voilà. Donc, par quoi on peut commencer? Ben, voilà, on a vu ton film, JB, votre travail, et c'est ce qui nous a donné envie d'en discuter un peu avec toi, puis comme aussi une occasion pour parler de cinéma et de vie, parce que moi, la chose qui m'a beaucoup touché dans ton film, c'est surtout la question de la liberté, et que ce que j'avais ressenti, c'était comme le cinéma accompagnait la vie, et se laissait diriger par la vie, mais ne la régulait pas, quoi. Parce que cette histoire, qui est un peu, comme tu le définis, un road movie, c'est beaucoup l'histoire de vie qui vous a drivé.
Ouais, c'est ça. Comment dire le film, je l'ai tourné tout seul avec donc les deux personnages principaux du film. On a vécu dans une voiture pendant un mois et demi à peu près. Pendant un été. C'est l'histoire d'un été, quoi. C'est un peu une parenthèse dans les vies de chacun. À un moment, on s'est retrouvés tous les trois, même si, bon, après, c'est des gens avec qui je vis au quotidien. Enfin, au quotidien. C'est tant que ça puisse être un quotidien, le mode de vie qu'eux ont et que moi j'ai, quoi. En tout cas, on est habitués, on vit ensemble. C'est des gens qui sont très proches, quoi. Et donc, moi, j'avais envie de... ce qui était important pour moi dans cette histoire, c'était leur histoire d'amitié à eux tous les deux. C'est même presque plus qu'une amitié qu'ils ont, c'est un peu un binôme, quoi. Moi, je trouve, enfin, eux, ils se définissent un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui commence une phrase et l'autre qui peut la finir, quoi. C'est un peu comme si c'était une personne éclatée en deux, quoi. Un peu, en fait. Et voilà. Donc, et puis bon, dans leur vie, voilà, cette parenthèse-là, c'est que la durée du film, en gros, sur tout un été, quoi. C'est un peu un moment que, dans le mode de vie qu'on peut avoir, qui permet de s'échapper un peu, quoi. Vivre en voiture, tout ça, même pas vivre en camion, enfin vivre sur la route, vivre en voiture, même pas en camion, quoi, en voiture, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu fais la cuisine dehors, tu dors dehors, tu dors pas dans la voiture, c'est ce qui peut déjà une différence, quand même, avec... donc, une espèce de précarité, de mouvement, tout le temps, quoi. C'était ça qui était intéressant, donc ouais, enfin, par rapport à la liberté, ce que tu disais, quoi, en tout cas, c'est ça qui, dans ce mode de vie-là, c'est ça qui était important, quoi.
Ça fait sens pour tourner.
Ouais, voilà. Et donc après, l'idée, voilà, c'était de filmer d'une manière la plus légère possible, le truc, c'est que je viens pas mal du journal filmé au départ. Et donc j'ai gardé ça, même si jusqu'à maintenant c'était des films qui étaient un peu plus centrés sur moi, quoi. Là c'est sur eux, mais y a cette idée de garder ça un petit peu, de filmer un truc le quotidien, quoi, le trivial, et puis essayer de tirer le trivial vers quelque chose d'un peu plus universel, quoi. Moi je crois vachement à ça. Au fait que tout le monde, n'importe qui est une figure, quoi, et moi j'aime bien l'idée qu'on a pas mal, c'est d'essayer de trouver un peu des nouvelles figures, des nouveaux repères. Moi je pense que des modes de vie à réinventer, l'origine du projet, il partait de l'idée que on était dans un moi j'étais dans un univers qui me... une société, tout ça, j'avais plus beaucoup de repères et bon, je me reconnaissais plus dans grand chose, un truc un peu, une idée un peu apocalyptique des choses, quoi. Et qui peut être assez déprimante au premier abord comme idée, mais au final, en fait, c'est plutôt l'inverse, parce que t'es sur un champ de ruines et tu peux tout reconstruire, et t'as la liberté absolue pour tout faire, justement, il y a tout à réinventer. Et bon, donc ça, c'est un peu l'idée de départ, quoi. Donc trouver des figures qui sont là pour réinventer, enfin, qui posent des nouvelles bases, des manières de vivre autrement, quoi. Moi, j'aime bien les appeler, les deux personnages du film, le pilote et le copilote. Il y en a un qui conduit, il y en a un qui conduit pas. Mais pilote et copilote, ça renvoie en théorie, tu vois, je sais pas moi, la vitesse, tout ça, machin, eux, leur manière de conduire, d'arpenter l'espace, les routes qu'ils prennent, c'est pas du tout dans cet esprit-là, quoi. C'est plus des chemins de traverse, ça tourne en rond, voilà,
fait
quoi.
Sur place.
Ça fait sur place à mort.
Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, Jean-Baptiste, dans ton film, c'est que... J'ai trouvé que c'était un film très, très lumineux au sens de joyeux, ce qui est assez rare au cinéma et surtout quand on part peut-être de quelque chose qui est du réel, bien que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais voilà, c'est un cinéma joyeux et aussi lumineux dans le sens où je trouve que c'est un film... qui est voyant, enfin j'allais dire, toi en tant que cinéaste en tous les cas, bah, tu nous donnes non pas à voir simplement des choses comme j'ai pu le lire, tu vois, dans le truc du feed, mais tu donnes accès à des choses qu'on ne voit pas habituellement et qui dès lors participent à quelque chose qui est de l'instant présent, vraiment. Donc on n'est pas simplement dans une... Dans la possibilité de voir les étoiles dans la nuit, mais on voit au cinéma des étoiles alors qu'il se passe en même temps la vie. Et moi, ça m'a troublé. Je me suis dit waouh. Enfin, en tous les cas, si tu veux, aussi sur le support que tu utilises. Alors, je sais pas. Lolo m'a dit que tu utilisais un peu les matos qu'on a en ce moment, c'est-à-dire un peu les GH2, les trucs comme ça. Enfin, dans le style, qui permettent d'avoir une ouverture très grande et donc du coup de discerner des choses qu'à l'œil nu quelquefois ou en tous les cas au cinéma qu'on ne pourrait pas avoir. Et qu'aujourd'hui c'est possible. Alors on est, moi mon inquiétude c'était bien sûr pour utiliser, tu vois, encore du super 8 et tout ça, la disparition un peu de la matière et tout. Et bien là, tu vas au-delà, c'est-à-dire on n'est pas forcément dans de la matière, mais on est dans quelque chose qui dépasse ce que le cinéma offre habituellement. Je sais pas ce que tu veux dire, peut-être un truc par rapport à ça.
Par rapport au numérique, ouais. Moi je suis. Ouais, un enfant du numérique, entre guillemets, quoi. J'ai jamais trop tourné en pellicule, quoi. Et ça m'a toujours intéressé, cette matière-là, quoi, la DV à l'époque. Et puis maintenant, bon, ça m'intéresse dans la légèreté, mais bon, ça, au final, c'était déjà là quelque part avec le Super 8, quoi, on peut dire. Mais surtout, et puis maintenant, ouais, là, vraiment, ce qui me passionne, ce que j'ai trouvé... Ça faisait longtemps que j'attendais ça, c'était de pouvoir filmer la nuit, ouais, par exemple, quoi. Et parce que bon, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et c'est vrai qu'au cinéma, dès que tu veux filmer la nuit, bon, ben tu la refais, ou enfin, et c'est pas le mood. Et la nuit en extérieur, quoi, voilà, sans lumière, tout en lumière naturelle, à la pleine lune, ou à la lumière de la pleine lune et tout. Ce qui te fait aussi te rendre compte quand tu commences à filmer à la pleine lune que bon, il y a autant de variantes la nuit, tu vois, de lumière, de couleurs et tout, que la journée en fait. Voilà.
Mais ça raconte beaucoup de choses. C'est-à-dire que les instants que tu filmes la nuit, et notamment des lumières qui reviennent au fond, souvent inquiétantes, où on est vraiment... Bah, là, il y a quelque chose de l'ordre du temps. Alors, on ne sait pas où on est. Hein. C'est un film où on ne sait pas très bien où ça se passe. Bon, on traverse la France, c'est ce qu'on sait a priori avant. Mais bon, on ne sait pas vraiment. Il n'y a pas de repère temps ni de repère géographique. C'est assez... C'est assez comme ça. Ouais. Bon, c'est ce qui donne aussi la possibilité d'être dans cet instant présent, quoi. Mais il y a des profondeurs de temps et des profondeurs d'image autrement que dans la profondeur de champ, mais dans. Pff, C'est assez impressionnant à cet endroit-là, quoi.
Ouais. Je sais pas, Julie, moi, qu'est-ce que...
Non.
Parce que Julie, t'as un peu travaillé sur le film, t'as porté des regards...
J'ai monté avec Jean-Baptiste, en fait, le film.
Ouais. Mais alors, comment ça... Un film comme ça, ça se monte comment? Ou comment tu... Parce que c'est aussi question que tu peux pas... Il n'y a pas de début, forcément, pas de fin, ou ça, c'est plus complexe que ça, il n'y a pas de...
Il n'y en avait pas, en tout cas, qui était prévu. Il n'y avait pas une... Vu que le film s'est construit sur le trajet des deux, enfin, du pilote et du copilote, des personnages, c'est eux qui ont dicté un peu le... Après, on a reconstruit au montage une trajectoire qui nous semblait être peut-être un peu la plus juste, ou je sais pas, enfin en tout cas une idée de ces deux types qui descendent de la montagne, qui vont rencontrer des gens, travailler, et puis qui vont y repartir, quoi, et qui vont remonter. Donc c'était un peu, en tout cas pour la structure, on l'a construit un peu comme
ça. C'est ça, ouais. C'est des choses qui sont vachement cycliques.
Il fallait garder le côté, effectivement, que toi tu disais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire, on avance et en même temps on fait aussi du surplace et puis on sait pas. Et puis, parce qu'ils sont comme ça, donc il fallait le garder. Il fallait pas essayer de, d'avoir une trajectoire hyper précise là où on est. Parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça. En fait, ouais. Je crois que la structure du film, elle s'est construite vachement sur eux, comment ils sont, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Dans leur tête, comme dans leur corps, comme dans. Donc à la fois dans les mouvements, c'est-à-dire dans le montage, juste. Plan à plan, quoi, et dans la structure aussi, j'ai l'impression que ça garde ce que eux sont, quoi, en fait.
C'est-à-dire qu'ils sont dans un truc qui est vachement bon, eux, et pour revenir sur le truc de la géographie, par exemple, du film, où on sait pas trop où on est et tout, machin, l'idée, c'était que l'espace physique, pour moi, il correspond un peu à leur espace mental, quoi, enfin, c'est le monde intérieur qui est extériorisé, quoi, en fait, c'est cette frontière là, quoi, essayer de travailler, quoi, et eux dans leur tête, quand tu vis sur la route comme ça et tout, t'es à tel endroit ou à un autre, tu, enfin, sans trop te prendre la tête sur des cartes, je sais pas comment dire, mais les trajectoires, les chemins, on passe vachement dans des montagnes, donc ça fait des montées, des redescentes et tout, c'est la même chose et ça correspond assez souvent à ce qui se passe aussi dans leur tête, quoi. Enfin, ce qui se passait dans nos têtes, parce que c'est eux qui sont sur l'image, mais
t'es aussi présent.
Même si j'ai découvert ce mode de vie-là avec eux, vraiment, tu vois, en le faisant avec eux à ce moment-là, je l'ai vécu avec eux, quoi. Et donc c'était vraiment l'état dans lequel on était, quoi. Là, pour moi, c'est vraiment ça, c'est un peu le principe du road movie, de toute manière. Hein, c'est la trajectoire de vie, quoi. Sauf que, en général, au cinéma, c'est quand même toujours assez linéaire, quoi. Donc les road movies, ils sont souvent quand même assez linéaires aussi, moi, je trouve, quoi. Ouais. Bon, mais là, on n'a pas du tout hésité à ce que ce soit le truc ultra cyclique, et cyclique d'une manière très petite, à une échelle très petite, et puis très grande aussi, quoi. Enfin, c'est la période, quoi, en gros. C'est toujours un cycle, quoi. Donc c'était l'équilibre à se trouver aussi dans le film, quoi. Qu'on puisse garder ce truc un peu cyclique, de montée, de redescente, sans que ça soit trop répétitif, qu'il y ait des choses qui se rajoutent en même temps dans leur état.
Est-ce que tu peux nous dire, JB, un peu comment tu travailles, c'est-à-dire au niveau de ton rapport au film, hein, quand tu pars faire ce film, qu'est-ce que tu as en tête, comment tu bosses? Il y a une super grande liberté dans le film qui fait vachement de bien, parce que je l'ai pris un peu comme un truc bien, bien secouant, quoi, où tu te dis, putain, le mec, il est bien lâché, il s'est bien lâché, quoi. On reviendra un peu sur Julie, parce que je trouve aussi qu'au niveau du montage, comment elle a travaillé ou ce que vous avez travaillé ensemble, mais c'est aussi bien lâché. Et j'ai trouvé le montage formidable, vraiment. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de casser? Est-ce que c'est de l'intuition pure et tu te lâches quand tu filmes? Est-ce que tu écris en filmant? Comment tu bosses?
La liberté formelle, tout ça, en tout cas, elle vient, elle vient d'un travail, de l'expérimental. Moi, je viens de l'expérimental au départ. Après, ça me suffisait pas. J'avais envie d'essayer de raconter une histoire quand même. Bon, pas forcément en sens classique, avec un début et une fin, parce que il y a un début et une fin, clairement. Mais c'est une parenthèse dans la vie, donc ils n'ont pas forcément évolué entre le début et la fin, les personnages et tout ça. Et après, donc du coup, moi, comment je filme, comment je travaille, ouais. Moi, j'écris, j'ai quasiment pas écrit, enfin, j'ai un peu écrit, vite fait, j'ai écrit un dossier qui m'a un peu aidé à acheter le matos et tout ça, sur un premier tournage qu'on avait fait ensemble, un an avant.
Saisonnier,
c'était un bout qu'il y a dans. Maintenant, c'est un autre truc, il reste des bouts un peu sur internet, mais sinon, il n'y a rien dans le film. Il n'y a rien qui est resté. Donc, bon, ça, au moins, du coup, je savais. Et puis, je savais déjà un peu plus comment les choses allaient se passer, où est-ce que. Le matériel dont j'avais besoin. Et à partir de là. Ensuite, la manière. Bon, comment dire. La manière de filmer.
Qu'est-ce que tu savais du film avant de le faire, enfin, avant de tourner.
En gros, le film est en deux parties. Je savais, la première partie, c'est eux qui ont décidé. Parce que en gros, eux, ils l'auraient fait sans que je sois là, quoi. Aller dans les champs de pavots, quoi. Donc, il y a du travail, quoi. Et la deuxième partie, par contre, c'est. On a eu un break entre les deux de tournage, quoi. Et on s'est dit, bon, c'est cool, maintenant, on va. Enfin, moi, je leur ai dit, j'aimerais bien qu'on continue. Là, la raison d'être du road trip, c'était pas on va travailler, c'était on va juste faire le film, quoi. On va partager une expérience ensemble, on va faire le film. Et du coup, dans le film, ça se trouve. Donc moi, je savais que ça allait être comme ça, quoi. Alors, a priori.
C'est drôle parce que dans le film, on les sent pas forcément. On pourrait croire que de par le fait que dans un deuxième temps de tournage, il y a plus une intentionnalité, ouais. Ça pourrait atténuer la question de la liberté. Et finalement, ça, tu n'y es pas tombé dedans, quoi.
Ouais. Tant mieux.
Ouais, tant mieux, mais comment ouais. tu l'expliques, toi, que t'es pas. Est-ce que, parce que cette première expérience avait été tellement intense que tu avais des repères pour justement y rester dedans et ne pas te faire happer par la question de l'intention.
Ouais. Et puis c'est quelque chose de quand. Donc le premier tournage, on restait quand même. Même si on bougeait, on restait quand même à peu près tout le temps dans les mêmes espaces, les mêmes endroits. C'était quelque chose sur la répétition, il y a le travail et tout ça. C'est un travail assez particulier. Enfin, les saisonniers, comme tu disais, bon, c'est un terme que j'aime bien parce que ça s'inscrit dans quelque chose d'une histoire et tout, machin, d'un passé, de ce que sont les saisons, ce qu'ont toujours été les saisonniers, des gens qui sont ultra précaires, qui font les gens qui font les saisons, quoi. Et eux, ils le font là dans le film, mais à leur manière, quoi, on va dire. Mais bon, pour moi, ils s'inscrivent dans une continuité qui est celle du travail et puis de la fête, quoi. Voilà, en gros, quoi, et de la vie dehors, quoi. Et bon, moi, c'est ça que je voulais vraiment filmer. Après, je savais pas si. J'aurais la moitié. Si j'allais faire le film que sur une saison, ou si j'allais continuer aussi après à les filmer. J'ai commencé parce que je les ai filmés aussi. À d'autres. Pas quand, parce qu'ils sont pas tout le temps ensemble tous les deux, donc je les ai filmés chacun de leur côté, dans leur vie. Par exemple, il y en a un des deux qui travaille à l'usine, bon, mais je les filme à l'usine, mais bon, au final, ça, j'ai pas gardé. Quand j'ai fini le tournage du road trip, je me suis assez vite rendu compte que ça suffisait, qu'il fallait rester là-dessus, quoi. Non, moi, j'écris rien. J'ai vraiment rien écrit. Pour moi, c'était la croyance pure dans ce que eux, ils sont, enfin, dans le fait que du réel, tu vois, il y a une histoire qui va sortir, forcément. Il y a forcément une histoire qui va sortir avec des symboles qui sont forts, des rituels, tu vois, des motifs, tu vois, des rituels qui se construisent.
Enfin, tu faisais confiance à ce qui allait se
produire. Ouais, voilà.
Mais il y a un endroit où je suis moins d'accord avec toi, parce que tu parles beaucoup d'eux, mais je trouve que c'est aussi eux et toi quand ouais. même, dans le sens que peut-être qu'ils auraient fait ça s'ils n'avaient pas été là, mais même sur la première partie, ils auraient peut-être été. Mais puis il y a quand même chaque fois des choses qui se. Il y a beaucoup d'échanges entre eux et toi, qui des fois se signalent beaucoup plus, par exemple à un moment. À la fin de la soirée d'une free party le matin où il te dit putain pose ton appareil et viens danser, où là ça se signale fort, mais tout le long du film t'as quelque chose où on sent qu'il te regarde et qu'il joue avec toi ou qu'il dialogue avec toi.
Ça c'est venu comme ça.
Ouais, et puis c'est eux, la manière dont ils ont d'accepter, enfin tu vois, ils vont pas faire comme si j'étais pas là, quoi, c'est pas leur. C'est pas leur. Ouais, et puis moi, ça, je voulais le garder, quoi. Après, c'est des choses qu'il faut doser, quoi, parce qu'il faut arriver à dépasser le film de potes, quoi. Moi, j'aime bien le genre du film de vacances, du film de potes, tout ça. Mais d'arriver à essayer de dépasser ça pour en tirer quelque chose d'un peu universel, quoi, de mythologique un peu. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse un peu, quoi. Et après, la manière dont je filme, la manière dont le film s'est écrit, ça pouvait pas vraiment s'écrire. Ça s'écrivait avec eux, à trois, en respect de cette philosophie de vie qui accorde vachement à l'instant présent, quoi, à la croyance du présent.
Et qu'est-ce qui va en sortir
Et qu'est-ce qui va en sortir.
Mais t'as réussi quand même à écrire quelque chose pour avoir un peu de thune avant,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
Donc t'as réussi à te projeter quand même.
Ouais,
sur un
ouais.
C'est compliqué quand même.
Bah, parce que j'avais tourné, oui, j'étais parti 10 jours avec eux une première fois.
Ouais, okay.
Donc je me suis basé là-dessus, ouais, quoi, pour écrire mon truc, mais bon, c'est ultra théorique, tu vois.
Tu nous l'enverras pour moi, je suis curieux, hein, de voir.
Julie, vas-y. Ouais,
mais par rapport à ce que tu disais, je voulais
parler à Julie aussi.
Ouais, bah, par rapport à la question du montage, parce que est-ce que là tu nous décris comment s'est fait la question du tournage. Sur le montage, il y a aussi quelque chose qui s'est fait de sorte de garder une sorte de l'instant présent ou de comment tu reçois l'image et qu'est-ce que tu en fais. Ça, c'est la première question que j'ai envie de poser. Puis la deuxième question, mais qui est peut-être en lien, c'est que tu as quand même des variations de durée de plan qui sont assez surprenantes, où tu as des moments des plans longs, tu as des moments des plans très très courts, et que comment ça s'est éprouvé quand tu étais au montage, quoi. Ou comment tu as...
Bah. En vrai, je crois que les plans, ils avaient la durée. Il y a beaucoup de plans qui avaient la durée, qui ont une durée qui est celle-là parce qu'ils ont été tournés comme ça.
D'accord.
C'est aussi que la matière, elle était comme ça, très hétérogène, avec une espèce de truc où des fois, moi, j'avais l'impression que ce que Jean-Baptiste filmait, c'était presque. Il y a un plan, ce serait un mot sur un papier, et puis il y en a d'autres, ce serait comme s'il avait écrit plusieurs phrases. Enfin, tu vois, un peu un truc où, comme si c'était des espèces de. Là, il y a une petite idée, alors je fais un plan comme ça très rapide. Et donc, moi, nous, on a monté avec cette matière-là, en fait.
Tu l'as préservé, ça. Moi, tu l'as gardé.
Ah ben, ouais.
Le plus,
Alors après, on.
On est un peu obligé aussi.
Ouais.
C'est un peu ça dicte un peu. Ça dicte un peu le.
Ça dicte beaucoup, ouais.
Ouais. Même. Et c'est quoi que t'allais dire ?
Et sur à quoi tu t'es, du coup, tu parlais d'une certaine forme de descente, de montagne et de remontée,
ouais.
Tu t'es juste laissé guider par ça.
Ça, ça c'est arrivé. En fait, moi, Jean-Baptiste avait déjà commencé à monter quand je suis arrivé sur le projet.
Moi, j'ai fait quand même un premier boulot sur les séquences en elles-mêmes, un peu une recherche de style et tout ça, on va dire. Par contre, donc ça, j'ai fait ça à peu près, j'ai fait ça tout seul. Enfin, même si toi, t'as vu un peu des bouts.
Ouais, puis j'ai repris certaines scènes.
Et après, quand elle est arrivée, Julie, avant qu'elle arrive, il y avait pas de, enfin la structure, elle n'existait pas, les personnages n'existaient pas. Moi, j'étais trop
proche
de l'expérience de vie, donc j'arrivais pas à virer. C'était trop chronologique, quoi. Même si le film est assez chronologique, globalement par rapport au tournage, quoi. Mais bon,
En fait, moi, j'ai eu envie de leur trouver un peu une espèce de trajectoire, tout en gardant la leur. Trouver quand même quelque chose où moi, je me suis dit, ces mecs-là, que moi, je connais un peu aussi, mais pas très bien, qu'est-ce qui pouvait m'émouvoir chez eux? Qu'est-ce que je pouvais trouver beau? Et du coup, construire une espèce de récit par rapport à ce que je trouvais beau chez eux. Et à un moment donné, je me suis dit comme ça, peut-être que ça passe pas dans le film, mais c'est comme ça qu'en tout cas, on l'a construit, c'était de me dire, ces mecs-là, ils sont tout seuls dans une montagne, ils habitent tout seuls, ils vont essayer de se confronter aux autres. Et puis en fait, c'est trop violent, c'est trop dur, ils n'y arrivent pas, et pour l'instant, ils vont repartir. C'est pas ce truc où c'est pas encore tout de suite, quoi. C'est pas pour tout de suite qu'on va. Voilà. Et que par moment, pour moi, c'était deux mecs qui essayaient, mais qui se tapaient la tête contre les murs, quoi. Enfin, un truc comme ça. Où... Et voilà, et du coup, il y a eu cette idée, effectivement, de se dire bon, ben, on va les faire descendre de la montagne, et puis ils vont remonter.
Ce qui est assez. Même si. Comment c'est foutu dans le film, c'est pas du tout. Mais bon, c'est assez fidèle à ce qu'est notre vie, du moins pendant cette période-là. C'est-à-dire, on habite dans la montagne ensemble, assez coupé du monde, dans notre petite bulle. Et en même temps, on ne construit pas quelque chose de viable à cet endroit-là. Genre faire son jardin ou tu vois, un truc. Qui nous permettent de nous rendre autonomes, et puis de s'installer vraiment, tu vois, de s'ancrer, quoi. Parce que c'est ça qui est assez marrant aussi avec ces deux mecs, quoi. Et moi, je suis un peu dans le même état qu'eux, quoi. C'est une volonté de vivre dans le présent, quoi, mais tout en sentant bien qu'il y a une souffrance de ça, que ça va pas pouvoir
perdurer
avec l'âge et tout. Tu sens qu'à un moment donné il va falloir s'ancrer quelque part, que parce que le fait d'être toujours en mouvement, d'être toujours en train de surinterpréter tout le moment présent et tout ça, d'essayer de faire le geste parfait tout le temps. Enfin bon, ça, je pense qu'ils le garderont au moment où ils choisiront de s'ancrer, quoi. Mais pour l'instant, ils ont trop besoin du mouvement, ils ont trop besoin de... Et c'est ça qui est assez marrant dans le film, c'est qu'on aurait pu aussi finir le film en haut dans la montagne, et ça y est, maintenant, on est descendu, on est remonté, on remonte. On a vu que bon, ben là-bas, c'était pas possible pour nous. On est mieux dans la montagne, tout seul, en ermite, quoi. Mais c'est un mensonge. Pour l'instant, ils sont pas capables de ça. On n'est pas capable de ça. C'est pour ça qu'on a choisi qu'ils repartent encore, quoi.
Oui, ils sont ni capables d'être dans la montagne en tant qu'ermite, comme pas capables d'être dans la société sociale.
Ouais, ouais.
Et ils restent dans une sorte d'entre-deux, fragile, schizophrénique, possible et poétique.
Il y a un truc de jeunesse là-dedans, je trouve, vraiment. Enfin, de quelque chose de... On ne sait pas, ils ne savent pas encore.
Oui, il y a un entre-deux, voilà. Il y a un entre-deux entre l'enfance et le monde l'âge adulte. Ils sont déjà des jeunes adultes. Mm. Ils sont déjà adultes, bien sûr, mais ils sont encore dans cette envie de ne pas lâcher quelque chose ils savent que ça leur échappe quelque part, forcément, comme tu dis.
Ils essayent. Parce que c'est un truc vraiment que... Cette innocence-là, le truc du jeu et tout... On s'en aperçoit pas que ça nous quitte au fur et à mesure du moment où on est gamin. Enfin, l'innocence du regard, le premier regard que t'as quand t'arrives au monde, je pense, tu vois. Au fur et à mesure, un truc et donc le jeu et tous ces trucs de l'enfance, faire un feu, tout, machin. Des choses assez primitives, quoi. On les perd. Et moi, c'est ça que je trouve assez génial avec eux, c'est qu'ils... plus ou moins consciemment, ils gardent ça, quoi. Ils veulent pas lâcher ça, quoi. Le truc d'aller jeter des cailloux.
Justement, cette séquence très belle qu'il y a dans le teaser de la buissonnière, qui n'y est pas dans le film, elle est partie où, celle-là?
Parce que cette séquence-là, c'est au même endroit et au même
c'était
moment.
C'est encore au même endroit qu'il y a déjà une séquence.
Que quand il parle très sérieusement. Et du coup, en fait, c'est ça qui est aussi assez. Non, mais c'est vrai que c'est une chose qui était aussi intéressante, moi, quand je regardais les rushs du film, c'est de me dire. À ce même endroit, quasiment au même moment, ils parlent de manière extrêmement sérieuse sur le monde et sur leur peur de la folie. Et puis juste après, ou juste avant, je sais plus. Juste après, ils sont comme deux gamins en train de sauter partout et de faire n'importe quoi. Et il y a vraiment ce truc-là qu'ils ont, c'est-à-dire cette espèce de. Quand même de sérieux, enfin en tout cas de grave, comme ils disent.
Ouais.
Et d'avoir envie d'être un gamin complètement fou tout le temps. Donc ça explose dans tous les sens en permanence, quoi.
Et puis il y a un excuse-moi Lo, dans cette séquence il y a quelque chose de très 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 libre, hein, parce que effectivement les gestes, on est sur une plage et ils sont en train d'espèce de mimer comme ça des gestes primitifs du premier homme avec une déambulation comme ça d'hommes des cavernes, et en même temps donc il y a aucune parole, rien, et si ce n'est juste un des deux se fout à poil et rentre dans le lac comme ça, et l'autre continue à faire des pirouettes, etc. quoi. Donc il y a un truc mais d'un lâcher total qui se retrouve bien sûr dans la totalité du film autrement, quoi.
Mais tu sais ce que vous dites là par rapport, mais comme tu dis, cette question de l'adolescence, l'adulte, ou que en grandissant on perd sans s'en rendre compte le côté de notre enfance, que finalement qui fait sens dans la vie, c'est finalement d'essayer de le garder presque tout le temps, après chacun sa manière. Mais je trouve que dans le cinéma, t'as quelque chose qui est comme ça, et beaucoup aussi perdent ça, c'est-à-dire un moment où le cinéma devient soit quelque chose, un travail, soit un truc de reconnaissance, mais quelque chose qui fait que ça nous amène à l'écrire de plus en plus. L'écrire, ça veut dire le projeter, et c'est perdre l'enfance de... Le cinéma, c'est aussi jouer, comme on dit, je joue du violon, c'est... Ouais. J'en fais, mais je joue aussi, quoi. Il y a quelque chose de très parallèle entre le cinéma et la vie aussi.
Et ça, clairement, dans la manière de filmer, moi, c'est ça que je kiffe, quoi. C'est de pouvoir m'amuser avec la caméra de manière... en plus, voilà, c'est ça le truc aussi du numérique, quelque part. Bon, j'en sais rien, avec la péloche, il y a des gens qui font ça aussi, mais tu peux tenter à fond de toute manière, ça te coûte rien, tu vois, tu peux en amasser de la matière, bon après tu vas devoir t'en démerder au montage, mais au final, et puis c'est ça aussi le cinéma, enfin voilà, pour moi c'est quelque chose de, c'est quand même arriver à capter le moment présent, tu vois, enfin, et ces mecs-là, qui, pour eux, c'est leur philosophie de vie, tu vois, c'est, tu peux pas faire un truc, enfin pour moi c'est un peu la quintessence de ce que ça peut être, ouais, c'est une mise en abîme de leur gestuel, et moi, enfin je sais pas si j'arrive trop à me faire comprendre, quoi, mais...
Non, pas du tout. Je
Mais voilà, c'est ça le cinéma, quoi, c'est le truc de, d'arriver à fixer, enfin, ouais, à sentir ce moment présent. Donc tu peux te décider, tu peux décider de filmer ça en prenant ce risque-là, que ça se trouve, ça va vraiment faire de la merde formellement et que tu vas rater la chose essentielle. Mais en même temps, si tu penses que tous les moments sont magiques et tout, bon, ben, dès que tu vas rallumer ta caméra après...
C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand
Vas-y, ben, par exemple, moi, au départ, c'est ça, eux, c'est quelque chose qui m'ont vachement appris. J'avais vachement de moments où j'avais la sensation, quand t'es en docu, c'est quand même... Enfin, j'avais vachement la sensation de rater les choses, tu vois, j'éteignais la caméra et là, il y avait un truc qui se passait. Au bout d'un moment, ils m'ont dit « Arrête de faire, arrête de dire ça, c'est bon, t'as pas ça, tu t'en fous, le truc qui arrive après, c'est du même niveau, quoi, c'est le... »
C'est une sorte de lâcher quand même, parce que c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que cette espèce de à la critique quand on a, qu'on est passé d'un peu la pellicule, etc., de par rapport à la, au numérique, c'est de se dire, voilà, d'espèce de profusion qui fait qu'on a éternellement jamais satisfait, et donc on engrange une quantité de rush pas possible en voulant tout le temps saisir ce qui nous échappe, quoi. Et là, tu dis quelque chose d'important, c'est qu'à un moment donné, tu peux être capable de lâcher et de te dire « Non, là, j'arrête, quoi. » Et donc, du coup, comment tu te charges quand tu filmes? Parce que quand tu tournes en pellicule, tu es un peu chargé au moment où tu tournes, parce que tu sais ce qui c'est important, tant sur le plan économique que, bah voilà, surtout, d'ailleurs. Et donc, au moment où tu filmes, est-ce que tu... Il y a un truc qui se passe ou t'es dans... comment tu te sens quand tu filmes? T'es décontracté ou t'es très pris dans l'instant présent, dans l'intuition, quoi?
Ça dépend des moments, quoi. Il y a des moments où c'est vraiment... c'est souvent une transe qui vient à force de filmer, quoi. Quand ça marche, hein, en tout cas. Après, il y a d'autres moments où je suis complètement distancé, où je m'en fous, je pose l'appareil et je vais faire... Bon, je suis en train de manger en même temps, je suis en train de fumer en même temps. Enfin, je vis avec eux en même temps et je le tiens d'une main ou je le pose. Et là, pour le coup, on verra si ça donne quelque chose ou pas, quoi. Ouais, justement, ces deux moments, ils peuvent se retrouver, quoi. C'est au départ, tu poses le truc, tu sais pas trop, puis au fur et à mesure, tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à venir. Et t'as une transe qui commence à venir.
Mais cette question-là dont on parle, dont on définit par rapport au tournage, est-ce que toi, parce que d'après ce que je sais, c'est que t'es monteuse aussi, comment ça se fait ce passage? Parce que la question du montage, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus complexe pour essayer de garder cette sorte de transe ou de liberté, et qu'on peut vite tomber dans quelque chose justement où on essaye de... Parce que cet outil, quoi, comment toi ça te travaille ou t'essayes de...
Bon, le truc qui se passe, c'est que moi, je filme un peu aussi. Enfin, pas dans ce film-là, mais voilà. Et je pense que c'est pas toujours très éloigné la manière qu'on pourrait avoir de monter tous les deux, parce que Jean-Baptiste, il est aussi monteur à la base. Donc du coup, on se retrouve... c'est assez instinctif, je dirais, en fait.
T'arrives à garder quelque chose d'instinctif dans la façon de monter?
Je crois. Je pense que j'intellectualise quand même beaucoup plus que lui, un peu. Ouais. Je théorise quand même un peu plus. Peut-être parfois trop, mais ça reste très instinctif, ouais.
Disons que moi, je pense que c'est vrai que, contrairement à la pellicule où t'as pas beaucoup de matière, et donc du coup, tu pourrais te dire qu'au montage, tu vas quand même réussir à garder cette énergie. Comme vous disiez là, on tourne en plan séquence et on va pas se prendre la tête derrière à faire du montage, parce que tout le temps quand même que tu passes à monter, bon ben tu le vis pas ce temps-là. Enfin, il y a vraiment un truc ultra bizarre. C'est-à-dire, moi, mon objectif au départ, c'était de j'ai tourné 2 mois, je vais monter 2 mois, mais bon, j'ai pas du tout tenu. Mais par contre, je pense que l'outil donc voilà, tu perds l'instant, quoi. Mais l'outil numérique, il y a un truc du montage quand même qui fait que c'est très 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 rapide quoi. Tu peux tester 10 000 choses, tu peux en 5 minutes, tu peux, tu reviens, tu rebalances, tac, tu changes vite fait. Enfin, moi je sais en travail, ouais, ouais, qui peut naître au bout d'un moment. Si tu, moi je sais qu'on travaille quand même pas mal comme ça. C'est tu mets une musique, bim, tu retouches le son, tu repars. Enfin, moi je regarde, on regarde beaucoup en avant, en arrière, tu lis dans les deux sens et tu peux commencer.
Ouais, tu fais chauffer la machine, ta machine à toi.
Mais il n'y a pas trop de contraintes, par exemple. Enfin, tu vois, oui, on ne s'est pas beaucoup contraint sur les choses. C'est-à-dire, on met un son, puis on en enlève un. Puis au début, il y a un respect de la matière parce qu'elle est comme elle est, enfin, tu vois. Mais après, il y a quand même une grande liberté avec. Ouais. Parce que justement, c'est filmé comme ça. C'est-à-dire, des fois, la caméra, elle cherche sur le personnage, elle passe le visage, la main, et puis elle n'est pas toujours. Comment dire, c'est pas des plans qui vont être extrêmement composés avec une recherche comme ça. Donc tu peux en faire un peu ce que tu veux aussi, enfin ce que tu veux, toute proportion gardée, mais tu peux être très libre.
Justement sur ces questions d'images qui sont assez surprenantes à des moments, notamment au niveau des rouges là, de ces coquelicots, de ces trucs qui pètent, enfin qui ont l'impression qu'ils sont presque pastels et qui ressortent de l'image. Qui sont un peu récurrents, quoi, ou laisser le signal rouge dans la voiture, je sais pas si c'est le signal de la caméra ou quelque chose qui se reflète sur le pare-brise. Bon, il y a des trucs récurrents comme ça qui reviennent au niveau des signaux rouges. Hello, il n'a pas éteint son portable. Donc, comment vous l'avez enfin, ça, c'est ce truc du. Ça se travaille à l'image après ou c'est sur le moment ou c'est quoi?
Ah, tu veux dire les couleurs et tout ça,
ouais, c'est,
ou
c'est sur impression.
Sur impression, il y en a dans le film.
Il n'y a pas de surimpression, il y a des décalages d'image.
Ouais, il y a des décalages d'image. Bon, il y a quelques effets quoi, mais en gros, principalement les effets ils sont sur la couleur quoi.
Voilà, c'est ça, ouais. Et ça, vous le travaillez à quel endroit?
Au montage. Enfin, les deux aussi, c'est pareil. Il y a pas mal de plans qui sont quand même restés. Enfin, c'est des choses qui étaient déjà trouvées au tournage quoi. Ça, c'est les trucs de. Pour moi, c'est les trucs que disait Brakhage. Bon, lui, il tournait en Super 8, mais c'était. Tu prends une pellicule qu'on te dit qu'il faut que tu utilises pour une lumière artificielle, tu la testes en lumière de jour, tu surexposes, tu sous-exposes, tu tournes flou, tu.
Ouais, grosso modo, tu fais un peu n'importe quoi avec quelque chose qu'on te dit qui doit être spécifié pour ça, quoi. Et que ça, tu peux le reproduire au tournage et finalement au montage, quoi.
Voilà, il y a toujours. Enfin, c'est toujours la même chose. Soit tu. Ouais, on t'apprend à ce que. Bon, ben, à telle heure de la journée, il faut que les ISO. Tu dois utiliser tel. Eh ben non, c'est cool. Enfin, c'est bien de le faire des fois, mais c'est aussi bien de. Voilà.
D'aller à l'envers.
Ouais, parce que quand même, ce qui compte aussi, c'est. C'est la matière. Bon, tu peux dire qu'en numérique, il n'y a pas de matière, ou je sais pas quoi, tu vois, mais bon, il y a toujours cette question de la lumière, quoi. C'est la lumière qui fait quand même tout. Et moi, c'est ça aussi qui m'a fait kiffer avec eux, c'est que je savais que j'allais vivre dehors. Du coup, j'allais avoir les levers de soleil, les couchers de soleil, bon, et la nuit, quoi. Enfin, voilà, là, tu t'en prends. Forcément, tu es obligé de. Si tu vis comme ça, tu es obligé de revenir avec des belles images à un moment donné, tu vois. Enfin,
il y a quelque chose à un moment qui tu sais pas d'où ça vient, c'est plus fort que toi ou que je sais pas. C'est
vrai qu'il y a, je pense qu'il y a un vrai truc euphorisant, j'imagine, dans ta manière d'envisager le cinéma, quoi, qui est très, très, très comme ça, spontané, et qui vit, que tu vis un peu le cinéma comme une transe, peut-être pas, mais en tous les cas, quelque chose qui s'anime, quoi.
Ça, c'est assez nouveau avec ce film, hein, parce qu'avant j'ai quand même fait vachement de trucs, même si j'ai eu vachement de. Il y avait toujours la liberté de la transe et tout ça, avant j'ai vachement bossé. Pour le coup, il y avait vachement plus de surimpression, beaucoup de travail de post-prod, quoi, beaucoup de travail devant l'ordi, de virtuel et tout ça. Là, justement, j'avais envie de retrouver le réel un peu, tu vois, et cette liberté-là, dans le réel, quoi.
Mais après, par exemple, après un film comme ça que là vous avez fait, ça donne quoi comme envie pour les prochains films? Est-ce que c'est.
Disons que, bon, en gros, ce film-là, il faut le recontextualiser un peu. Il fait partie d'un projet qui est plus vaste, quoi, qui s'appelle La Tierce des Paumées, qui est un projet qui est mené en collectif, quoi, avec un collectif. Donc c'est vraiment cette idée d'essayer de trouver de nouvelles figures, tu vois. Pour moi, là, ce film-là, il raconte le pilote et le copilote. Bon, ben, il pourrait y avoir un film sur un prophète, tu vois. Voilà, moi j'ai rencontré des prophètes, j'ai rencontré des techniciens, entre guillemets, je sais pas moi, des mécanos, des cuisiniers, tu vois, qui essaient de faire des choses, des prêtresses et tout ça, je sais pas, il y a un truc par rapport à essayer de trouver, voilà, des nouvelles figures, de faire ressortir un peu le sacré, mais d'une autre manière, tu vois, le rituel, quoi, le rituel qu'on a vachement perdu, moi je pense, quoi, et qui est fondamental dans la vie, quoi, faire un apéro bien, faire un bon repas, faire n'importe quel geste, quoi.
C'est faire monter une mémoire un peu d'un truc, ouais.
Un truc qu'on a perdu avec la consommation. Tu peux avoir des débats sur la bouffe qui sont super intéressants, savoir s'il faut continuer à tuer les animaux ou pas, et tout, machin. Bon, moi, ce que je trouve... Il y a vachement de gens qui vont dire, par exemple, qui... Bon, là, je dévie grave, hein, mais... en même temps... moi je pense que le problème c'est pas de tuer, c'est pas qu'on tue les animaux, bon si c'est peut-être inhumain de tuer, enfin c'est pas, mais c'est la manière dont on le fait, quoi, c'est qu'on a perdu le sacré, quoi, on sait plus qu'on perd, qu'on enlève une vie, quoi, tu vois, et puis au final tu peux pousser ça aux légumes, c'est la même chose, quoi,
à tout
de la manière dont
au-delà de la question même de manger, quoi,
ouais, ouais.
C'est à tous les endroits de la vie, comment tu considères la vie
ouais. On perd ce qu'est la signification de la vie, de son côté sacré, de son côté magique de tous les instants, quoi. Du
le
côté
à la nourriture, le rapport à ce que c'est que de manger,
ouais.
Ouais.
Et du fait qu'on est vraiment une erreur, quoi, qu'on est un truc, qu'on est un miracle permanent, c'est un miracle permanent, la vie, quoi. Et ça, on lui rend pas assez, ce truc là moi je pense, quoi. On a complètement oublié ça, quoi. Et bon, voilà, on a plus trop de croyances, quoi, et moi je pense qu'on en a besoin, enfin moi en tout cas j'en ai besoin de remettre du sacré dans la vie, de mettre du mythologique, de mettre du... Et donc l'idée là, donc, pour revenir un peu, c'est donc d'essayer de trouver ces nouvelles figures, c'est tout ça. Donc à côté de ce film, en même temps, il y a aussi une recherche de vie. Il y a aussi plein d'autres films qu'on fait, mais qui n'ont pas du tout le même format, qui sont plus des trucs de 5 minutes, 10 minutes.
Tract, on peut en faire.
Ouais, on pourrait appeler ça comme tract. Il y a une idée, voilà, d'essayer de mêler...
Des films qu'on voit un peu sur la France entière.
Ouais, voilà. Moi, je pense qu'il y a tout un pan du cinéma, quand même. Pour l'instant, on est quand même vachement dans le roman ou dans le théâtre, tu vois. Enfin, on n'est pas trop dans la poésie, quoi. Enfin, il y a des gens qui le font depuis le début, hein. Mais bon, moi, c'est ce pan-là qui m'intéresse, quand même. C'est arrivé à... Il y a ces formes de films là, moi, qui me permettent des trucs plus courts, moins gros, quoi, qui me permettent un peu de souffler, que j'ai toujours fait en parallèle de celui là, quoi. Et alors après, pour les projets plus lourds, là, soit je continue avec les deux personnages, on a une possibilité, mais on n'arrive pas à le faire, parce que ça serait une sorte de suite un peu, on serait tous les deux avec les deux mêmes personnages, plus un autre gars qu'on connaît dans les Cévennes qui a un bateau, un vieil ermite qui vit avec un bateau il a un bateau à réparer dans la montagne. Et bon,
un bateau à réparer dans la montagne.
Ouais, lui il a un bateau. Ce mec là, c'est un vieil ermite, il a 80 ans, il vit dans une cabane et il a un bateau, on lui a donné un bateau, il aimerait partir en mer avec son bateau. Il a 80 balais, ce mec là, il a une énergie folle, et bon, il vit sans élec, il vit de son jardin, bon. Et on a été le voir une première fois, enfin moi je le connais d'avant, on le connaît d'avant avec Julie, on l'a filmé beaucoup, on a un film dans les caisses avec lui, on a 30 heures de rush à monter, donc ça pourrait être aussi un autre film, mais aussi donc avec ces deux personnages, on avait un projet ensemble avec les deux personnages de la Buissonnière plus lui, c'est-à-dire eux qu'ils aillent l'aider à reconstruire le bateau et le foutre à l'eau, partir avec lui en mer, quoi. Mais ça veut dire, du coup, moi je peux pas le faire dans la même. Autant eux que moi, on peut pas le faire dans la même optique que comment on a vécu là, tu vois, sur ce tournage là, tu vois. Ça veut dire qu'il faut qu'on. Il y a une rupture de mode de vie un peu, tu vois. Où là, pour le coup, il faut commencer à accepter de se projeter un peu dans le futur, de s'ancrer, de construire des choses qui restent pas que dans l'éphémère. Et bon, ben ça.
Puis quelque chose où il y a une sorte de début avec une fin, d'une voilà. certaine manière. Mmh. Mais ce qui fait que ça aussi, comme on disait tout à l'heure, ça, avec la règle du jeu, ça induira votre façon de fabriquer le film.
Ça induira la façon de fabriquer le film. Ben, moi, tu vois, je le filmerai pas pareil, je pense. J'aimerais peut-être, tu vois, avoir un ingé son si on fait ça, tu vois, parce que ça sera pas de la même manière, ça sera peut-être plus posé. Peut-être un peu de machinerie, j'en sais rien, parce qu'il y a tout un trajet où il faudrait amener le bateau à la mer. Donc, essayer de trouver d'autres points de vue pour filmer, tu vois, de fabriquer des outils qui permettent donc d'être dans quelque chose d'un peu plus construit, quoi.
Ouais, construit, puis finalement, là, mais c'est une question que je voulais vous poser, tu l'amènes, et aussi ça pose la question peut-être dans ce projet-là, ou je sais pas les autres, mais celui dont tu parles, la question de la production. Ouais. C'est-à-dire, et ça m'amène à vous poser la question de vous, dans la question de la production, vous vous situez où ou qu'est-ce que c'est, comment vous percevez les choses, comment vous les entrevoyez ou...
Ben disons que là, bon, pour ce film, concrètement, comment il a été fait avec la SCAM, là, l'aide de la SCAM, Brouillon d'un rêve, c'est 4 700 euros, qui m'a permis d'acheter le matos, de payer l'essence, pas sur tout le tournage, mais sur une bonne partie du tournage, et puis de vivre, moi, pendant 2 ans. Ce qui fait que j'ai payé personne. Voilà. Ce qui n'empêche que l'idée sur la production, ça serait intéressant peut-être de grossir un peu, d'avoir un peu plus de fric. Je sais pas si c'est pour, ça serait pour payer les gens ou pas, parce qu'en fait, ce qui est intéressant au final, moi j'abuse un peu, mais en même temps j'aime bien parce que j'ai bossé que avec tous les gens ont accepté de travailler sur ce film. C'est des gens qui souvent travaillent en étant payé, et là ils ont accepté de le faire du début à la fin, les gens qui ont fait les copies, les gens qui ont fait le son, le mixage et tout ça, ils l'ont fait gratuitement, et je trouve ça bien aussi de fonctionner de manière gratuite, parce que moi je le fais sur le film des autres aussi, donc ça me pose pas de problème de le demander.
Ça en passe pas forcément par le fric, mais par une espèce de chose plus libre, de service rendu.
Voilà, c'est ouais. Ça. Moi, de toute manière, dans l'idéal, c'est d'essayer d'abolir un peu le fric. Bon, tu peux jamais, c'est un idéal, ça, mais...
Au moins, ne pas en être aliéné, quoi.
Voilà, ça, c'est sûr. Donc, dans la production, forcément, moi, je vois pas les choses autrement. Pour moi, tous les plus grands, que ce soit Kubrick ou Mekas, ben, ils sont leurs propres producteurs, quoi, on va dire. Quoi. C'est... Herzog, tout ça, que tu as beaucoup de fric à gérer ou pas, et tu dois maîtriser. Donc ça pose aussi des termes de diffusion, quoi, des choses que vous faites vachement bien d'ailleurs. Et de diffuser soi-même, de trouver d'autres contextes pour le diffuser. Après, si on arrive à... Moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, essayer de choper plus de fric, mais de l'utiliser d'une autre manière, quoi. Pas forcément dans les salaires, pas forcément... Parce qu'en plus, si on veut se référer à comment ça se passe de plus en plus, là, avec les conventions collectives et tout ça, enfin, tu vois, moi, je comprends pas la manière dont c'est dans le cinéma, les gens sont payés, tout le monde devrait être payé pareil, tout est très compartimenté.
Bon. Pyramidal.
Pyramidal. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de bosser, puis que les choses tournent. Moi, j'aime bien bosser sur les projets des autres, des potes aussi, voilà, et... Enfin bon, par contre, bon, si, à la limite, s'il y a du fric, il y a toujours du fric public à choper, ou pas public d'ailleurs, du fric, ça peut être intéressant, mais de le réutiliser d'une autre manière, quoi. En organisant, peut-être en l'investissant dans la bouffe, en l'investissant dans...
Le risque un peu toujours d'être à la recherche de fric, c'est de... Tu fais pas du coup, quoi. Tu tournes pas parce qu'en fait, t'es en train d'attendre d'avoir, et comme t'espères, et du coup, tu fais pas.
Moi, j'ai commencé comme ça, en voulant faire un dossier pour le CNC et tout, avec une boîte de prod, et pourtant, c'était avec des gens, c'était pas une boîte de prod, enfin, je les connaissais, ces mecs, c'était pas non plus, tu vois, des producteurs. Et je me suis rendu compte que ça me... Enfin, je faisais rien, quoi, et puis ça me formatait avant d'y aller, quoi, et vraiment, quoi.
Le cerveau, déjà, ouais. Bouffé par le tracas et la peur de ne pas y arriver, quoi, en fait.
Ouais, et puis en plus, tu mets vachement d'énergie là-dedans, tu considères que comme tu fais rien d'autre, tu vas considérer que ce que tu écris, c'est ton œuvre, alors que c'est pas ça, c'est juste un outil.
Avoir l'argent devient presque la fin en soi, quoi, avant même que le film soit là. Enfin, il y a un truc bizarre. Ouais, ouais. Et après, ça vaut pas pour tout le monde, hein, mais il y a des gens qui... Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu...
Ouais. Ça vaut pour beaucoup, quoi. Et moi, ce que je trouve dommage, moi, je sais que la production, je m'y connais un petit peu ces derniers temps, mais par exemple, je m'y suis cogné, je fais le choix de m'y cogner quand j'ai fini de tourner mon film. Et je trouve que c'est intéressant, et je trouve que c'est là où tu vois que la question des institutions et de tout ça est vraiment complètement à la bourre, et puis à la fois a pas envie d'être dans une sorte d'avant-garde, parce qu'on arrive à avoir des outils qui nous permettent de faire les films dans une réalité économique très basse, tu vois, vraiment où tu peux les tourner avec rien, et qui pourraient, si les institutions ou les modes de financement voudraient avancer aussi vite qu'avancent les outils et les gens qui les font, on devrait pouvoir avoir des aides où tu montres tes rushs, où tu montes un peu en tâche, et puis c'est là qu'on te finance, quoi, ce qui ne se fait pas, et ce qui ne veut pas se faire, quoi.
Ouais, mais parce que ça formate la manière de faire du cinéma. Après, moi, je trouve que c'est bien, moi, j'aime les films à gros... Il y a des films à gros budget, des fictions qui sont très bien faites, moi, j'adore, hein. Mais je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas la... Bon, après, c'est toujours pareil aussi. Peut-être que si on avait du fric, tout ça, peut-être qu'on ne les ferait pas de cette manière-là aussi, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de place à l'écriture cinématographique pure dans un système de subvention, quoi, en tout cas, quoi.
Enfin, si, il fallait qu'il y ait un cadre, un contrôle, qu'il y ait un truc qui échapperait, finalement. Et ton rapport au cinéma au sens large, enfin, j'allais dire, sur les différentes formes, tu dis que tu viens d'expérimental. T'es passé par la FEMIS, non, c'est ça?
Julie aussi. Je la dénonce.
Donc vous êtes les quelques...
Ouais, il y en a, ouais. À chaque fois, forcément, il y a des gars qui...
Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas tant que ça, finalement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui y passent, quand même. Mais ouais. Sinon, par rapport aux différentes formes de cinéma, tu dis un peu aimer beaucoup de choses différentes, par rapport à la fiction, tout ça. Quel genre de cinéma tu aimes, en fait?
Ouais, moi, je sais. Mais non, mais parce qu'il y avait un truc que je voulais dire qui était important, c'est que, tu vois, là, par rapport à... Et plus on en parlait, plus on le disait, quoi. Hier, on parlait du film Le Moindre Geste de Deligny, ouais. Quoi. Et je sais pas si vous l'aviez vu avant... Vous l'aviez vu avant,
ouais.
Parce qu'il y a quelque chose d'une forte trace à ce niveau-là. C'est-à-dire que finalement, dans Le Moindre Geste de Deligny, il y a non plus pas grand-chose qui se passe. C'est des choses, des gestes du quotidien. Il y a une narration, mais la narration, elle est là juste pour le, on va dire, juste pour le jeu ou l'envie de dire qu'il y a une chronologie, parce que tu as un petit début qui te dit qu'il y a un début, tu as une petite fin, mais au-delà de ça, c'est complètement éclaté. Quoi. Mais il y a quelque chose de très, très similaire dans une gestualité. Et pour moi, Le Moindre Geste, c'est l'un des films le plus libre que j'ai perçu.
Ça fait partie des films, forcément, quand tu l'as vu, tu te dis, bon, mais c'est possible de faire comme ça, quoi. Après, moi, je kiffe aussi, j'adore ça, j'adore Brackage, j'adore aussi Herzog, où je suis ultra admiratif d'un mec comme Herzog qui s'est battu avec les institutions, mais qui a toujours eu la même mise sur tout, ou Kubrick, tu vois. Mais bon, moi, je sais que ça me correspond peut-être moins, tu vois, cette manière de faire là. C'est des gars qui l'ont fait en gardant une intégrité, toujours, je pense, quoi. Bon.
Est-ce que pour ajouter un truc aussi par rapport à ce que dit Lolo, c'est le moindre geste, mais il y a toi qui joues aussi dans le film. Il y a toi qui joues à faire du cinéma. Il y a eux qui jouent et toi qui t'éclates en même temps qu'eux à jouer avec ton jouet. Comme un gamin qui voudrait savoir complètement comment ça marche, ce truc.
Ça vient vraiment de... ça vient de manière un peu lointaine d'une phrase de Brackage ou même de ses premiers films qu'il a essayé de faire. En gros, il y a des films où il disait « Je vais essayer de retrouver la vision qu'a le nouveau-né, un bébé, tu vois, avant qu'il commence à quoi ça ressemble quand il commence à ouvrir les yeux sur le monde. Il voit quoi? Juste des formes, des couleurs, des... tant que culturellement il n'a pas commencé, ça c'est une cheminée, ça c'est une fourchette, ça c'est un briquet, bon ben lui il voit juste une masse, on peut imaginer ça, on sait pas trop, tu vois, c'est essayer de retrouver ce truc là, le truc un peu ludique, ouais, des choses. Et
alors du coup, comment ça s'est passé quand t'étais à la FEMIS, où j'imagine, bon, comme n'importe quelle école, entre guillemets, bon, il faut pouvoir s'encaisser les... Moi, j'ai une copine qui y est en ce moment. Bon, il y a des trucs où elle dit « Non, faut pas faire ça
!» Pas toujours facile, oui. Non, mais toi, ton expérience, je crois qu'elle était plus intéressante que la mienne.
Pourquoi tu dis
non,
ça?
Non, parce qu'on l'a vécu ensemble, ouais. Quand même.
Non, mais parce que Jean-Baptiste, il a rencontré... Elle a fait son travail, chaque technicien travaille avec un réalisateur. Enfin, tu vois, il y a des espèces de micro-équipes. Ça forme déjà comme des espèces de petites... équipe de cinéma, quoi, un peu en fond,
ouais,
mais voilà.
Spécial.
Et puis tu tombes pas forcément sur des gens avec qui tu as envie de travailler, quoi. Enfin, voilà.
Oui, bon, nous, moi j'ai eu la chance d'être dans une promo où on était plusieurs à avoir ces idées-là. En même temps, moi j'étais pas aussi radical que quand je suis rentré. Enfin, à la sortie, j'étais bien plus radical que quand je suis rentré, quoi. Mais après, je savais pas trop à quoi m'attendre en y rentrant. Et la différence, c'est que on a fait à peu près ce qu'on a voulu au final, même s'il fallait se battre toujours, mais on a fait des films contre. Quoi. Moi, je considère, on a fait des films contre quelque chose, quoi. Contre l'institution, contre. On a fait de l'expérimental, du docu, de la fiction. À chaque fois, on se battait, quoi. Et au début, on n'avait pas assez d'assurance en face des mecs qui. Et puis au fur et à mesure, on en a eu de plus en plus. Bon, ça a fait des films un peu indigestes, mais bon, qui. Et là, du coup, là, je suis content parce que c'est pas un film. J'ai pas fait un film contre, quoi. J'ai fait un film avec les choses, quoi. J'ai fait un film. Je me suis amusé à le faire, quoi. C'était pas de la souffrance, c'était pas du. Tu vois, c'était pas. C'était aussi lié à la vie à Paris, à tout ce que ça représente d'être dans le noyau du système. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand ils sont perdu. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce film. Enfin, il y a des. C'est en recherche d'être perdu, tu vois, dans la nature, vraiment loin de tout, loin de, d'être sur le bas-côté, tu vois, les endroits où on sait pas où on est et tout ça. Et mine de rien, quand on est dans la nuit, comme tu disais, il y a toujours des lumières un peu inquiétantes, tu sais pas d'où elles viennent. Alors, c'est soit des trucs d'éoliennes ou d'antennes qui sont loin là, mais qui sont toujours là, quoi. Et t'as cet espace noir libre là, mais t'as l'impression que t'as toujours Big Brother qui est toujours là, tu vois, et qui te.
Tu peux pas être perdu. Hein.
Et c'est vrai que c'est ça aujourd'hui d'ailleurs, parce que tu as beau être en race campagne, etc. Je veux dire, alors c'est soit les avions qui passent dans la journée où tu vois toutes les lignes dans le ciel, donc tu te dis, bon, il n'y a pas d'espace, même quand tu regardes en haut, complètement sans présence humaine. Et là, effectivement, tu es toujours entouré au loin de ces trucs, des espèces de...
Les éoliennes, c'est terrible pour ça. Enfin, c'est terrible. Moi, au départ, j'ai trouvé ça esthétiquement assez intéressant. Après, moi, je vis dans une région où il y en a masse, quoi, mais vraiment masse.
Avec
dans
ces trucs qui clignotent à fond.
Voilà, alors la nuit... Bon, déjà, c'est au fur et à mesure, plus il y en a, plus ça te pète l'horizon quand même, au bout d'un moment. Bon, après, pourquoi pas, mais c'est vrai, il y a des gens qui vont te dire avant il y avait les moulins avant ou des trucs comme ça, mais bon. Là, après, le truc, ouais, c'est cette lumière, la nuit, tu vois, qui est là, qui te rappelle. Et en plus, le pire, c'est que ils se permettent de les implanter à des endroits qui n'ont pas besoin, tu vois, c'est pour produire. Pour d'autres endroits qui sont vraiment. Enfin, c'est cette espèce de noyau du système qui avale tout, qui a besoin de alors que voilà, il n'y a pas les endroits où ils mettent les éoliennes. Moi, je pense au sud-ouest de la France. C'est dans des montagnes, des endroits où on est. Où, électriquement, on est déjà autonome en fait, quoi. Avec les barrages et tout ça, c'est bon, il y a déjà assez d'électricité, quoi. Déjà assez d'électricité.
On a beaucoup parlé d'images, mais peu de son pour l'instant. Ouais. Je voulais un peu savoir un peu ton rapport au son et comment ça s'est passé sur la buissonnière. Le son est assez différent selon les périodes dans le film. Je trouve que quelquefois, on ne l'entend pas bien et en même temps, ça va bien avec ces espèces de balbutiements de la parole où on reconnaît à peine ce qu'ils disent. Et je trouve ça assez intéressant pour ça. Parce que finalement.
Sachant que la projection qu'on a eue au feed était de très mauvaise qualité sonore.
D'accord, ah ok.
Ouais, pour bon, préciser.
Bon, en tous les cas, moi ça m'a pas. Si tu veux, je suis pas. Alors je me suis posé la question effectivement de ça, personnellement, mais en tous les cas, ça m'a pas gêné moi. Enfin, parce que j'ai retrouvé des instants aussi de son de qualité à certains endroits, et bon. Qu'est-ce que...
Bah, la prise, moi j'étais tout seul, donc bon, c'est sûr que c'est pas aussi... T'as un ingé son qui est avec une perche, bon, bah, la qualité de la prise des dialogues du moins, même des ambiances, le mec il aurait passé plus de temps si j'avais pas été tout seul. J'aurais une matière de départ qui aurait été...
T'es équipé avec quoi alors du coup avec quoi?
J'avais un petit... c'est un KM 150 là, une Neumann que j'avais mis sur l'appareil et branché en XLR sur un H4 qui est enregistré. Et le H4, avec le H4, je faisais des ambiances. Mais alors, pour revenir sur ce que tu disais sur la parole, par exemple, c'est vrai que les deux personnages, ils ont des accents et des manières de parler très très particulières, quoi. Mais comme moi j'aime bien dans leur sonorité aussi, quoi, tu vois, dans leur musique, dans leur.
Alors
c'est
vrai
que ouais, c'est un peu frustrant des fois parce que bon, moi je sais qu'il y a des choses.
Ça participe au fait de qu'on n'accroche pas, hein. Ça participe au fait qu'on s'agrippe pas à quelque chose, à une compréhension mentale aussi de ce qu'ils disent, tu vois. On est dans un truc qui flotte aussi, je trouve. C'est vachement intéressant ça.
C'est vrai. C'est vrai. Même si des fois j'aimerais que ce soit un peu plus maîtrisé, mais. N'empêche que y a vraiment une musicalité à eux, dans leur manière de parler. Ils ont tout un argot et tout machin que bon, après je sais pas si on le sent assez dans le film, mais c'est aussi important pour moi que. Et après voilà, moi je me permets. On se permet pas mal de faire des séquences asynchrones, de mettre du off, parce que voilà, c'est pareil, là pour le coup, quand tu as des points de décrochage entre l'image et le son, tu laisses de la place à la rêverie, quoi.
C'est
la
voiture, magnifique, voilà. Elle est juste légèrement, ce qui crée un tchouk, un truc mental.
Mais t'écoutes parfois mieux aussi, je trouve, quand c'est des... la parole sur pas synchrone de mecs qui sont que tu vois vivre et puis tu les entends parler, t'écoutes plus ce qu'ils disent à ces moments-là. Enfin, ça focalise, moi, je trouve, plus.
T'as bossé, Julie, sur le montage son ?
Non, c'est deux amis à nous qui étaient à la scène. Mais le montage son, il était comme si on le faisait en montant.
Le montage son, il était...
Vous montiez l'image... entre l'image et le son, comment vous avez travaillé au montage ?
C'est une pratique mais qu'on a tous les deux sur ce film-là, mais sur d'autres, c'est-à-dire de monter, de tout le temps monter parfois d'abord du son même, et ensuite de l'image, pour trouver une rythmique, quitte à ce qu'après on l'enlève une fois que
tu la déplaces,
mais du coup...
C'est vrai que l'étape du montage son,
elle se fait beaucoup
en parler, moi j'y crois pas trop, En gros, c'est pour moi le montage son, l'étape montage son à proprement parler, c'est vraiment pour préparer le mixage, quoi. Parce que le montage son, toutes les grandes lignes, on le fait en même temps que l'image, quoi.
C'est presque impossible de pas le faire en même temps, en fait, je trouve, parce que ça donne tellement le rythme et parfois des tonalités à des séquences que tu peux pas attendre, en fait. Ouais. Enfin, les séquences, elles n'existent pas, sinon.
Après, ça n'empêche que des fois, dans une première étape, ça nous arrive de monter muet, tu vois, sans écouter le son, mais. Dès qu'on a un premier jet à l'image, tout de suite on met le son. Ou à l'inverse, des fois on met le son et puis on fait l'image. Quoi. Mais en tout cas, voilà.
D'accord. Et c'est quelque chose qui, j'allais dire, en tous les cas en tournant, tu disais que tu étais avec un appareil léger, etc. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse de travailler le son, j'allais dire en direct, au moment où tu filmes. Est-ce que tu te vois, est-ce que ça t'arrive par exemple, du coup avec le GH4, de partir et d'aller choper des sons et de travailler indépendamment de l'image complètement, quoi ?
Je l'ai pas assez fait sur ce film, mais je le fais. Ça m'arrive même de faire des films comme un G-son. J'en ai fait pas mal, des films par mois, mais en étant un G-son. Films de Julie, d'autres films. Mais pour le coup sur ce tournage je l'ai pas assez fait, quoi.
Combien de temps avant tu l'as eu cet appareil numérique là, est-ce que tu as eu le temps vraiment de bosser avec avant?
Un petit peu, quoi, quand même, ouais. J'ai mis du temps à l'appréhender, tout ce nouveau matériel, autant l'image que le son, quoi.
Ça difficile, en fait.
Disons que c'était éloigné de... Enfin, l'image, en tout cas, c'était éloigné de ce que j'avais d'habitude. Avant, je filmais vraiment avec des Lumix, les petits Lumix, là, les appareils de poche, là. TZ5 ou PTZ, quoi. Donc avec un zoom et tout, machin, une longue focale et tout. Alors que là, j'avais une focale fixe, par exemple. Il fallait que je fasse le point, alors que je n'avais jamais fait ça avant. Et pour le son... non, le H4, bon, avant j'avais un H2, donc je savais ce que c'était. Bon, mais c'est vrai, le son, je l'ai beaucoup moins réfléchi sur ce. Alors, au tournage, je lui ai donné beaucoup moins de place que. Mais du coup, il y a plein de sons qui sont dans le film que j'ai pas pris pendant le tournage, quoi. J'ai mon H4 avec moi et je les prends à d'autres moments, quoi. C'est des sons qui viennent d'autres moments et pas forcément du moment du tournage, quoi.
Des sons d'autres gens.
Des sons d'autres gens,
Des trucs qu'on récupère.
Ouais.
Ok, bon, on arrive à la fin. Vous avez d'autres choses à rajouter, Fab?
Non, juste que moi j'ai adoré le film, quoi. Je dis vote parce que du coup vous avez quand même bossé ensemble, hein, largement.
C'est pas signé, c'est pas de réel, c'est pas signé. Dans le générique.
Un bon bol, vraiment un truc au niveau cinéma, une vraie proposition de cinéma. Je suis bien content d'avoir vécu ce film au fil, quoi. Donc c'est cool. De toute façon, on reste en contact.
J'espère pouvoir le remontrer à Marseille.
On vous invitera. Là, vous êtes encore jusqu'à demain ou lundi à Marseille.
Ouais, c'est ça.
Que tu découvres.
Ouais, qui est cool. Les gens sont cool. Les gens sont contents d'habiter en ville.
C'est donc, bien. Tu reviendras avec plaisir.
Je suis content d'habiter à la mer, ouais.
C'est ça. Moi, je suis contente de voir la mer, ouais.
Vous avez été vous baigner?
Oui.
Ouais. Un peu fraîche. Hein.
Oh, ça franchement, va. Ça va.
Ah ouais, ouais.
Ça va.
Moi, je m'attendais, tout le monde disait ça, je m'attendais à bien plus fraîche que ça, quoi. Mais bon, ça va.
Ah, nous, on n'est pas trop habitués, mais bon. Hein.
Non, on est déjà des Marseillais.
Hein. Ouais, on est déjà des Marseillais, quoi. En tout cas, merci beaucoup de ce petit moment passé. Donc voilà, c'est sur Radio Galère 88.4. L'émission sera diffusée sur dérive.tv. On ne sait pas quand est-ce qu'on la diffuse. Vous verrez, ça sera la surprise. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Un petit bruit de l'ambiance de Marseille avant de se quitter.